Bonsoir Twitch, bonsoir à tout le monde. Ici Radio Pirate, c'est Elvire, on pirate votre confinement, il est 21h03. Ce soir, on va parler santé mentale et télétravail. Oui, c'est important, vous avez plusieurs émissions sur la santé mentale, c'est un thème important qui nous est cher à Radio Pirate, parce qu'il y a une grande stigmatisation entourant la santé mentale, et encore plus dans le milieu du travail, dans cette société où la performance est malheureusement haine, dans cette nouvelle Startup Nation qui est devenue la France sous l'ère de Macron premier. C'est la performance à tout prix. Et ben non, nous, à Radio Pirate, on a décidé qu'on allait un petit peu essayer d'inverser la tendance. Ce sera la santé mentale à tout prix et pas le travail, parce que le travail n'est pas une valeur, même si certains veulent parler de valeur travail. Non, il y a des valeurs beaucoup plus... Il y a des vraies valeurs, des valeurs honorables, mais le travail, non, c'est un outil de production. Ce n'est pas une valeur. Donc, je suis Elvire, et avec H, venez, on pirate le confinement et on crée de la dette.
Radio.
Pirate.
Et bonjour, donc je suis avec H.
Donc, je suis Adrien, avec un H. Je suis réalisateur et monteur. Depuis plus de 3 ans, en autre entrepreneur, et donc je télétravaille depuis 3 ans, bien avant le confinement. Donc j'ai quelques trucs et astuces que j'ai pu développer au cours du temps. Donc je vais vous parler de ce genre de choses, et j'ai aussi quelques tips sur la méditation. Donc on parlera de ça en fin d'émission, et on fera une petite méditation guidée ensemble, si vous le voulez.
D'accord. Et on a aussi Eléria Boken Roses. Bonjour Eléria.
Bonsoir. Donc moi c'est Eléria. Je suis conseillère en prévention des risques professionnels. Et donc ce soir on va parler prévention liée au télétravail. Et je vais vous apporter quelques petits tips en termes d'ergonomie.
Eh ben, merci à toi. Et enfin, nous avons Marwa.
Bonsoir.
Bonsoir Marwa.
Merci, je suis ravie d'être là. Je suis doctorante contractuelle à l'Université de Lausanne et je poursuis en parallèle, je donne des cours aussi à l'Université à Paris en tant que vacataire. Et je suis là pour présenter un petit peu mon témoignage, notamment la transition très difficile en période de confinement quand on était étudiant il y a à peine quelques mois et quand on passe dans la vie active.
D'accord. Eh ben merci à vous deux, merci à H pour être ici. Alors on va passer le côté un petit peu rébarbatif dès maintenant. On va parler définition un petit peu parce qu'on parle santé mentale et télétravail. Et voilà, en bonne ex-juriste que je suis, on commence par des définitions. Donc selon l'OMS en 2017, la santé mentale n'est pas simplement l'absence de troubles mentaux. Elle se définit comme un état de bien-être dans lequel chaque personne réalise son potentiel, fait face aux difficultés normales de la vie, travaille avec succès de manière productive et peut apporter sa contribution à la communauté. Bon, je ne suis pas d'accord avec tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais travaille avec succès de manière productive, ça me gêne un peu dans cette définition de la santé mentale. Par contre, ce que j'aime assez, c'est que ce n'est pas juste l'absence de troubles mentaux, c'est aussi un état de bien-être. Mais pour réaliser son potentiel, voilà, y a des mots que je n'aurais pas choisis, mais voilà. La santé mentale, c'est pas juste se dire, si vous n'êtes pas diagnostiqué, si vous êtes juste avec de gros guillemets mal au travail, ça fait déjà partie de votre santé mentale. Et l'OMS le confirme. Je sais pas ce que vous pensez, vous, de cette définition de l'OMS.
D'anxiété qui sont très dommageables, qui ne sont pas forcément diagnostiquables. Donc je suis assez d'accord avec toi.
Et il y a Carnet Tchèque qui dit qu'il ne doit pas avoir beaucoup de personnes en état de bien-être au travail. Alors, justement, ça, on va en parler un petit peu plus tard avec Eléria Boken Roses. Et je vais continuer dans mes définitions. Alors, le télétravail est entouré... il y a une loi qui entoure logiquement le télétravail, même si elle est très floue. Et donc le télétravail est entré dans le code du travail, s'il porte encore ce nom-là avec les dégâts qu'a fait Macron en mettant des coups de pelle dedans. Le télétravail dans le Code du travail est là depuis le mars 2012. C'est toute forme d'organisation dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information. Voilà. Très très flou, tant pis, nos bourses en scène dit très flou et il y a rarement de vérification et d'inspection. Donc sous cette forme, tous ceux qui ont des moyens d'avoir des technologies de l'information, c'est-à-dire si votre travail peut se faire par ordinateur, par téléphone, logiquement, vous pouvez être en télétravail. Et normalement, il n'y a rien qui vous en empêche. L'employeur ne peut pas vous empêcher d'être en télétravail, comme même actuellement en temps que Covid, il ne peut pas vous empêcher d'aller... Enfin, logiquement, si, mais par exemple, j'ai des collègues qui vont sur le lieu de travail en respectant les gestes barrières, parce qu'elles l'ont décidé, mais qui ne font pas venir les gens, parce que je suis dans le social, qui ne font pas venir les gens et qui font du télétravail en appelant les gens à leur bureau. Donc voilà, ça dépend de comment justement on vit le télétravail et c'est justement là ce qui nous intéresse. Donc Marois, je vais te laisser parler un petit peu de ton rapport à tout ça. Je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Justement, tous ces éléments un peu en introduction que tu as évoqués sont très intéressants parce qu'ils recouvrent des réalités qui, en fin de compte, dans le cadre économique actuel, en tout cas dans le paradigme dans lequel on se situe, des éléments qui ne vont pas du tout être pris en compte ou alors assez peu. Et c'est dans cette perspective que je voulais un peu évoquer ma situation. Déjà, pour un peu de contexte, le premier confinement, donc en mars dernier, je l'ai vécu dans 9 mètres carrés, en tant qu'étudiante en Master 2, stressée, en burn-out. Je préparais des projets de recherche et des candidatures pour des contrats doctoraux. Et là, comparativement, en fait, le deuxième confinement se passe un peu mieux. Je suis dans un appart un peu plus grand, je suis en coloc avec ma sœur, donc ça se passe plutôt bien. Mais là où le bât blesse, c'est que je me retrouve catapultée en fait dans la vie active, et encore plus dans la vie active en tant que doctorante, donc dans la formation à la recherche, dans un cadre assez particulier, sans avoir vraiment de temps d'adaptation. J'ai un peu une vie active qui se rapproche pas mal de ce qui peut se faire dans les labos de recherche, c'est-à-dire que je n'ai pas des obligations d'enseignement. Je suis facataire par choix aussi, parce que je veux avoir cette expérience. Mais dans les faits, ce que je dois faire pour l'instant, c'est de la revue de littérature. Et malgré en fait, la disponibilité et le soutien que m'apportent ma directrice de thèse et mes collègues, je n'en ai encore rencontré aucun ou aucune IRL. En fait. Je n'ai pas encore mis les pieds à Lausanne pour voir un peu comment ça se passe. Et je suis un peu dans ce flou assez curieux qui me met encore plus dans cette angoisse-là. Et commencer en fait même un travail de recherche en sciences sociales et en sciences politiques, c'est compliqué parce que je n'ai pas accès au terrain. Faire de la revue de littérature, c'est très sympa, mais c'est un petit peu monotone et c'est un petit peu frustrant quand on veut faire du terrain ou faire au moins des premières perspectives de recherche. Concernant mon travail en tant que vacataire, j'ai aussi un peu un rapport d'angoisse avec les circonstances actuelles parce que je me sens impuissante face aux angoisses de mes étudiants et mes étudiantes. Je prépare des cours donc sur mon temps personnel, je réponds à leurs questions, je mets en place des devoirs. Et c'est très dur en fait de leur donner un cadre un peu serein, d'autant plus que c'est ma première expérience d'enseignement. Donc j'ai beaucoup de mal à voir un petit peu les enjeux, j'ai beaucoup de mal à calibrer mon temps. Et mon syndrome de l'imposteur est vraiment très actif. Tous ces éléments-là, en fait, ça rend mon télétravail un peu difficile. J'ai pas beaucoup de contacts avec mes collègues, hormis par quelques réunions toutes les quelques semaines. Et en fait, j'ai l'impression de vivre une forme de dissonance cognitive entre les exigences que je me suis posées, ces critères-là, et le fait que je sois encore techniquement en phase d'apprentissage de ces nouveaux enjeux. Donc ce cadre un peu est très difficile psychologiquement à vivre et j'ai vraiment du mal à me poser des limites en fait. Et à ça en fait il y a une autre difficulté, c'est que je suis étrangère extra-européenne, donc j'ai des difficultés à la fois pour j'ai des incertitudes associées à mon statut. Déjà j'ai des démarches un peu compliquées à faire administrativement en Suisse et le confinement et le télétravail ne me donnent pas beaucoup d'espace mental pour ça. et je dois aussi faire des démarches administratives en France, vu que j'enseigne ici de temps en temps. Donc tout ça, c'est un peu une soupe d'angoisse constante qui se manifeste parfois. Donc j'ai un peu de mal à dormir. J'ai des phases un peu où je suis complètement démotivée et ça aide pas du tout.
Ton témoignage, et oui, ça peut s'entendre. Moi, personnellement, ma dépression a éclos où j'ai fait cette transition entre les études et le travail. Et c'était en 2016. Voilà, c'était pas du tout pendant cette période de 2020 qui a été une année un petit peu hors du temps, on va dire. Hors du temps et en même temps très présente, très présente. Et je peux pas, je peux qu'imaginer ce que ça fait de rentrer dans la vie active sous le temps du confinement. Je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'est l'absence de liens sociaux avec les collègues t'apporte beaucoup d'anxiété. Moi, c'est très bizarre. Alors, peut-être parce que j'ai commencé mon travail, le travail que je fais actuellement. Je suis intervenante socio-judiciaire, c'est-à-dire que je travaille avec... parce que je ne me suis pas présentée, du coup. Je travaille avec des personnes qui sont sous contrôle judiciaire. C'est l'alternative à la détention provisoire avant le procès. Je travaille avec des gens qui... je fais des enquêtes pour le parquet et des enquêtes sociales et des enquêtes de personnalité. Et voilà, et moi j'y suis depuis juin dans ce métier-là. Donc, j'ai pas connu le premier confinement. J'étais au chômage pendant le premier confinement. Et moi, l'absence de liens sociaux avec mes collègues, mais ça me libère. Moi, je vis ma meilleure vie, là. Je suis en télétravail. Je suis la seule de mon entreprise, mais de mon service, à faire un télétravail exclusivement chez moi. Et moi, j'ai pas du tout ça. Moi, ça, au contraire, ne plus avoir cette... maître, mais quand même, voilà, on sent quand même, je suis la type dernière dans le service, ça me libère de ce poids. Mais toi, c'est peut-être justement parce que tu commences.
Justement, ouais, c'est assez fou en fait, parce que c'est un rapport un peu double, on va dire. Pour mon boulot à l'université où j'enseigne, donc voilà, je dirais pas trop où c'est, parce que voilà, je sais pas s'il y a des étudiants qui écoutent, mais en gros, dans l'université où j'enseigne, mes collègues, notamment les nouveaux doctorants qui enseignent, c'est des amis à moi de Master 2. Donc on a eu la même galère pendant le confinement, le même stress, les mêmes crises d'angoisse, les mêmes pertes de poids. Donc, on avait un peu ce rapport-là qui faisait que du coup, j'ai aucun problème à bosser en télétravail, on discute, ça, il n'y a aucun problème. Je suis limite contente de faire ma vacation en télétravail. Par contre, en Suisse, j'ai énormément de mal parce que j'ai besoin d'abord de faire mes preuves. Et je sais que c'est très difficile d'établir un rapport un peu amical avec des collègues qui ont, pour la plupart, 20 ans, 30 ans de plus que moi. Enfin, 20 ans de plus que moi, je dirais. Et c'est très bizarre parce que j'ai l'impression de devoir encore bosser encore plus dur parce que ça se voit moins en fait quand on fait du télétravail, vu que j'ai pas des trucs à rendre là incessamment sous peu. Donc en fait, je suis dans ce truc bizarre où je me dis en fait, ils savent pas si je bosse ou pas, ça se trouve, je suis en vacances et ils doivent se dire ça, ils se disent que je glande. Et en fait, c'est un rapport de paranoïa un peu bizarre où je me dis du coup, tu bosses pas assez donc faut bosser un peu plus et je me retrouve à faire des horaires assez ridicules. Donc c'est pour ça, je pense que c'est exactement ce que tu dis, c'est le fait de faire ses preuves, d'être en début de carrière et c'est bizarre.
Il y a des réactions sur le chat qui dit « tant bien en bourse sans sel, j'avoue, déjà commencer un travail en télétravail, ça doit pas être simple, mais carrément entrer dans la vie active, c'est sûrement bizarre ». Il y a Q qui nous dit « perso, je suis contente de plus avoir à sociabiliser, mais en même temps, les échanges naturels sont parfois au travail, sont parfois utiles pour se sentir à l'aise ». Tampinambour qui rajoute ne pas avoir cette pression des collègues, allez viens, on va faire un meeting, on va boire un coup, il faut s'intégrer. C'est assez libérateur pour les personnes introverties. Mais il y a Baka Larenon qui nous dit l'enfermement dans la revue de littérature, lire et c'est tout, c'est aussi un truc que j'ai assez mal vécu. Noctar qui dit perso, je pense dans l'environnement et c'est pareil, pas de terrain, je suis juste faire de la littérature, c'est oppressant, mais pas voir les collègues pénibles, c'est la meilleure vie. Il y a Dessermine qui fait en tant qu'étudiant orienté recherche, ne pas avoir le contact avec les profs, c'est dur.
Ouais, c'est sûr. Pour le coup, ouais, parce que autant je comprends pour les collègues pénibles, mais je sais même pas qui sont mes collègues pénibles pour l'instant. Oui. C'est juste des petites images sur l'écran, ils sont tous et toutes étaient adorables. En plus, bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu un département d'études en genre et en sciences politiques. Donc, c'est des gens avec qui j'ai des affinités, au moins sur les sujets de recherche. Donc, j'ai pas trop peur de ça. Après, oui, je comprends par rapport à la pression, aller boire un coup, tout ça. Mais moi, c'était plus par rapport, en fait, de pas avoir la perspective de personnes un peu plus expérimentées. Et je sais que j'ai tendance à pas mal craquer quand j'ai pas de retour. Et j'ai peur de déranger les gens. Donc,
C'est là où ton syndrome de l'imposteur s'enclenche, du coup ?
Totalement. C'est-à-dire que là, je me dis, OK, j'ai eu ce truc complètement par hasard. Est-ce que j'ai vraiment les reins assez solides pour continuer ? Et je sais pas du tout, en fait. C'est juste que, genre, ce qui a suscité mon intérêt pour le sujet, c'est typiquement le fait de pouvoir faire du terrain. Même pendant mon mémoire de M2, c'était génial, j'étais souvent sur le terrain, c'était encore un sujet en genre et en sociologie des mobilisations. Donc, je faisais de la revue de littérature et en même temps, du terrain, quoi. Et en sociologie et en sciences politiques, c'est très dur de pas en faire parce que ça enlève un peu tout le sel qu'il y a à la recherche. Et là, je me retrouve à lire des pavés de 60 pages, très intéressants, mais un peu secs.
Ça ne doit pas être évident tous les jours.
Ouais. En tout cas, ça fait vraiment réagir sur le chat. Il y a Noctar qui dit « Faut demander X, c'était pénible, que je me prépare quand on sera plus confiné. » je pense que ça passe. Il y a Medokuna qui dit « Je suis en L3 et ça me manque énormément les amis. » Tampinambour qui dit « Sans celle qui nuit la peur de déranger, ça c'est très difficile en télétravail. Ouais. » Dessermi qui dit « Comment t'es censé apprendre le métier quand tu viens d'un milieu populaire sans contact avec des gens expérimentés dans l'université ?» Kyo qui nous dit « Oui, il y a deux sociabilisations en vrai, le côté peer pressure, faire copain-copain, versus juste pouvoir échanger sur le boulot et comprendre des trucs au hasard d'une conversation. » Oui, c'est vrai que pour ça, des fois, oui, ça peut me manquer, mais voilà, moi, je suis un petit peu en total... moi, c'est ma première expérience de vrai télétravail. J'ai fait des journées de télétravail comme ça, et en tant que confinement. Mais moi, ça a plutôt été libérateur dans le sens où voilà, je suis atteinte... on m'a diagnostiqué donc une dépression en 2016 avec un trouble anxieux généralisé. Et donc, voilà, j'avais une dose assez haute, de plus en plus haute d'anxiolytique, malheureusement, pour pouvoir combattre ça. J'ai commencé un sevrage en février de cette année. En juillet de cette année. Ah oui, j'ai commencé un sevrage alors que je venais de perdre mon chat, je venais de commencer un nouveau boulot dans une nouvelle ville. C'était peut-être pas le meilleur moment et il y a eu des régressions. Et là, j'ai décidé de prendre le temps du télétravail et de ce confinement. Et ce que j'ai pu réduire, par exemple, entre juillet et novembre, dans novembre, j'ai déjà dépassé ce que j'avais réduit en 4 mois. Parce que, en fait, le temps et l'énergie que je ne mets plus à faire semblant, à sociabiliser alors que j'en ai pas vraiment envie, ou que je ne peux pas, que mon corps, mon cerveau me dit non, là c'est non, à mettre un masque pour pas montrer, faut surtout pas montrer qu'on est faible au travail, faible ou bien qu'on n'a pas tous ces moyens, je le mets dans mon sevrage et dans ma santé mentale vraiment. Donc moi ça me fait un bien fou de plus avoir cette pression intériorisée, parce que les gens ne savent pas ma situation, mais voilà, je ne vais pas leur en parler, parce que sinon, est-ce que, comme je suis en CDD, est-ce que je vais être reprise si je commence à parler de ma situation ? Et donc moi, voilà, ça me permet de pouvoir adapter mes horaires, et puis si ça ne va pas, je repousse un entretien, je repousse un... Et je peux mettre vraiment mon énergie au service de ma santé mentale, tout en travaillant, parce que pendant longtemps j'ai pensé que c'était complètement que j'étais pas faite pour travailler. On m'a souvent prise pour une fainéante, pour quelqu'un qui veut pas travailler, mais c'est juste que ce système capitaliste me convient pas avec ma santé mentale. Et là, avec le télétravail, je vois que je peux être opérationnelle, je peux même être en sevrage et toujours travailler. Donc c'est vraiment un système que moi dans lequel je n'entre pas, plutôt qu'un problème de fainéantise ou de ne pas vouloir travailler.
Moi, je pense que tu disais que ta santé mentale n'était pas faite pour le capitalisme. J'ai de fortes suspicions que tes anxiétés soient liées, soient dues au capitalisme et non pas l'inverse. Mais
oui, oui.
C'est une autre paire de manches. Mais merci en tout cas, Maro, pour ton témoignage. C'était vraiment extrêmement intéressant.
Merci.
Est-ce que tu as des pistes ou des conseils que tu voudrais partager de choses qui auraient pu fonctionner jusqu'ici pour t'aider à calmer quelque chose ou pas du tout? Ou est-ce qu'on peut passer
Rapidement, en fait, pendant le premier confinement qui a été vraiment très très dur, pour le coup là, à côté ça va beaucoup mieux même si il y a pas mal de problématiques. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est un peu de me décentrer des enjeux limites, d'avoir un peu une approche assez froide des choses, même si c'était mon mémoire de fin d'études, même si les enjeux étaient forts, le contexte était très mauvais. J'essayais un petit peu de me décentrer, j'avais repris un peu certaines activités qui me plaisaient, donc des choses comme la broderie, certains jeux vidéo d'horreur qui me permettaient un peu d'avoir un effet cathartique pour ce confinement. Et aussi quelques trucs en fait qui me réconfortaient typiquement. J'essayais d'avoir aussi un rythme dans la journée et surtout j'essayais de pas me mettre trop de pression les jours où je savais clairement que j'allais pas être productive. Je me disais tant pis, c'est foutu pour foutu, autant faire quelque chose qui m'aide à me sentir mieux. Voilà.
Bah merci beaucoup.
Merci à vous.
Si tout le monde veut bien, on va passer à Eléria. Alors Eléria, donc elle est conseillère. Elle le dira mieux que moi, ce qu'elle est. C'est ce genre d'amis où tu peux pas... C'est un peu comme Barney Stinson dans How I Met Your Mother, on n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'ils font, ou Chandler dans Friends. Je vais te laisser dire ce que tu as à nous dire sur le sujet, Aurélia.
Alors, du coup, moi, je suis conseillère en prévention des risques professionnels. Nous, dans ma spécialité, on est souvent vus comme les empêcheurs de tourner en rond. Parce que quand on reprend le code du travail, etc., il y a certaines règles à respecter et moi, je suis là pour les faire appliquer et faire en sorte que le salarié d'une entreprise se sente bien sur son lieu de travail, qu'il travaille dans de bonnes conditions. Donc là, on entre dans ce qu'on appelle la qualité de vie au travail ou bien le bien-être au travail. Et moi, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous pensez que les troubles musculo-squelettiques et notre santé mentale sont liés?
Je pense que si tu poses la question, c'est que oui. Mais
moi, oui, je pense aussi parce que... Enfin, on parle aussi de... Comment ça s'appelle? De somatisation. Et l'inverse. Enfin, quand on est mal, quand on a mal, la santé mentale va mal. Et le chat est unanime aussi.
Et unanime aussi. En fait, il faut savoir qu'une trop grande dose de stress pour notre organisme, si on est exposé régulièrement, comme ça peut arriver en télétravail, en fait, va nous conduire à avoir ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques. Donc, soit on peut se retrouver bloqué au niveau des cervicales ou avoir des phénomènes de tendinite au niveau des poignets. Donc, pour éviter ce genre de phénomène, moi, je vais vous proposer quelques petits tips, en fait, pour bien vous installer et essayer de faire en sorte que votre télétravail se passe du mieux possible. Déjà, le choix de votre espace de travail est primordial. De préférence, être à une proximité d'une fenêtre, mais en étant parallèle à celle-ci, perpendiculaire à celle-ci, pardon, parce que si vous êtes parallèle à celle-ci, en fait, le reflet du soleil va donc réfléchir dans votre écran d'ordinateur. Et du coup, en fait, ça va fatiguer vos yeux plus qu'autre chose et donc vous demandez une charge mentale supplémentaire pour pouvoir déchiffrer ce qu'il y a sur votre écran. Alors qu'en étant perpendiculaire à votre fenêtre, du coup, vous n'aurez pas ce phénomène, vous serez mieux, mais tout en pouvant profiter d'une lumière naturelle qui soit suffisante. Ensuite, privilégier un plan de travail qui soit droit et pas arrondi. Par exemple, vous avez une table ronde chez vous. Je vous conseille plutôt de l'oublier pour vous installer, surtout si vous avez un PC portable, parce que sinon vous allez perdre de l'espace de travail et vous serez mal installé. Je m'explique. Donc, que ça soit dans le cadre d'un PC fixe. Pour être bien installé, il faut donc qu'on soit face à notre écran, que notre écran soit à une distance d'à peu près 50 à 60 cm, ou sinon ce que vous faites, c'est que vous tendez votre bras devant vous et il faut que vos doigts effleurent l'écran. Chose qui n'est pas forcément évidente avec un PC portable, mais qui est totalement faisable si vous avez un PC fixe. Et tout ce qui est clavier et souris doit être au plus près de vous pour éviter du coup de trop solliciter tout ce qui est épaules, coudes et poignets. Donc du coup, vous allez plutôt placer votre clavier à une dizaine de centimètres du bord par rapport au bord de votre espace plan de travail. Avec la souris... qui est juste à côté. Pour vous donner une image, il faut vous imaginer que vos coudes doivent être collés au niveau de votre taille. En fait, vous avez une espèce de ceinture qui vous empêche de trop décoller vos coudes pour éviter qu'ils soient trop éloignés et que vous sollicitez trop en fait tout ce qui est épaules, poignets, etc. Ensuite, l'assise est aussi également importante. Bannissez, si vous pouvez, les chaises dactylo. Moi, pendant le premier confinement, j'ai commencé le télétravail en ayant une chaise dactylo. Au bout de 15 jours, je n'avais plus de dos.
Alors, qu'est-ce que tu appelles une chaise dactylo ?
C'est la chaise que tu achètes quand tes parents t'achètent quand tu es collégien ou lycéen pour pouvoir t'installer à ton bureau quand tu fais tes devoirs. Donc c'est un dossier qui est assez petit. Je sais pas si je peux vous en trouver un modèle et
non mais je vais trouver vas-y.
Voilà, un genre de chaise IKEA etc. où en fait vous pouvez juste régler et encore pas suffisamment la hauteur du siège, mais si ça fait des années que vous l'avez, en fait, vous avez le vérin, la cartouche de gaz qui est à l'intérieur commence à être fatiguée, donc du coup, vous avez le siège qui descend tout seul, et vous vous retrouvez, vous avez le phénomène, en fait, vous avez les épaules qui sont complètement remontées, et du coup, pour pouvoir taper à votre ordinateur, où là, vous allez donc énormément solliciter tout ce qui est cervical et épaules, et vous allez vous retrouver avec des douleurs énormes. Et du coup, privilégier, et c'est ce genre de fauteuil qui se fait de plus en plus, et que j'ai remarqué, vous pouvez trouver ça chez Conforama ou même But, c'est des sièges où vous pouvez donc tout à fait régler la hauteur de l'assise. Vous avez quelque chose pour régler au niveau des lombaires, donc pour que votre dos soit bien calé, bien installé. Et le plus important, des accoudoirs. Qui permettent à vos avant-bras d'être dans le prolongement pour pouvoir atteindre votre clavier et votre souris tout en gardant un angle de 90 degrés au niveau de votre coude. Je ne sais pas si je suis claire ou si j'ai perdu l'entièreté du chat pour le moment.
Non, mais on te demande les chaises gaming.
Les chaises gaming, j'en ai même moi acheté une du coup pour pouvoir moi me préserver au niveau de ma santé. C'est une marque GTX. Donc, du coup, j'ai un petit coussin pour les lombaires que je peux régler comme je veux au niveau de la hauteur pour bien être calée au niveau des lombaires. Et un petit coussin donc pour les cervicales quand je suis un peu fatiguée, je m'appuie dessus pour me libérer donc au niveau des cervicales et moins les solliciter. Donc ça, les chaises gaming, vous pouvez y aller comme vous voulez. On trouve de très bons modèles chez But ou même chez Conforama, hein, pour ne pas les citer. Par contre, privilégier des accoudoirs, en fait, vous pouvez régler la hauteur.
D'accord. Ah, pour ça, j'ai un peu de chance parce que j'ai une chaise, j'ai réussi à me procurer une chaise Maxonomix, mais pas au prix qu'ils les font. Voilà, ça, depuis que je suis dedans, je revis.
Mais bon. Pour pas les nommer, oui, les chaises de les fauteuils gaming de chez Maxonomix, c'est le topissime en termes d'ergonomie qu'on puisse trouver. Mais pour un peu moins cher, on peut trouver à peu près le même équivalent. Donc voilà, si vous hésitez à acheter une chaise gaming, n'hésitez pas, faites-le.
Du moment qu'on puisse régler les coudoirs.
Les accoudoirs, parce que les accoudoirs, au niveau de la hauteur, il faut qu'ils soient réglés de façon à ce qu'ils vous permettent donc, du coup, d'être vraiment dans le prolongement de votre avant-bras. Et ils doivent en fait effleurer, ils doivent être à peu près à la même hauteur que votre plan de travail. Donc voilà. Après, c'est faites des pauses régulièrement. Une pause de 10 minutes toutes les heures. Déjà pour vous soulager au niveau des yeux, pour éviter une fatigue visuelle trop importante, mais aussi pour vous décharger au niveau de la charge cognitive que vous allez vous demander par rapport à sur quoi vous travaillez. Ce que moi, je n'hésitais pas à faire pendant le premier confinement, parce que là, actuellement, pour ce deuxième confinement, je suis en recherche d'emploi. Voilà, n'hésitez pas à faire des pauses régulièrement, mais c'est pas juste... Oui, je recule mais un peu ma chaise, c'est levez-vous et bougez, parce que à force d'être assis plus de 8 heures par jour sur une chaise, vous n'êtes pas bien installé, etc., vous pouvez avoir des phénomènes de gonflement en fait au niveau des jambes qui peuvent conduire à des problèmes de circulation sanguine ou même de varices. Et donc, du coup, n'hésitez pas à vous lever, à marcher un petit peu, etc., pour vous dégourdir les jambes, parce que ça vous aidera par la suite, etc. Autre chose qu'il y a à savoir ensuite, si vous bénéficiez d'un ménagement de poste sur vos lieux de travail, vous êtes en droit de demander à ce qu'il soit installé chez vous.
Important.
Et ça, votre employeur ne peut pas vous le refuser. Parce que si on reprend le code du travail, votre employeur a une obligation de résultats et de moyens en termes de santé et sécurité au travail. Donc si vous avez des aménagements de poste, alors peut-être pas forcément, j'ai vu passer dans le chat un bureau qui monte et qui descend, là ça va être un peu plus compliqué, mais si vous avez un clavier spécial, une souris particulière, par exemple une souris verticale, ou ce qu'on appelle les roller mousse, donc des souris centrales, ça, votre employeur est dans l'obligation de vous les fournir quand vous êtes en télétravail.
D'accord. Merci beaucoup pour ton témoignage. Tu nous avais mis un lien de l'INRS que j'ai mis dans le chat.
Donc ça, en fait, c'est un petit document PDF à télécharger qui reprend en fait tout ce que je viens de dire pour que vous soyez bien installé à votre poste de travail tout en étant en télétravail, mais que vous pouvez vous resservir en étant dans votre entreprise. Et ce que vous pouvez faire aussi, que ce soit sur le lieu de travail ou en étant en télétravail, si vous êtes courageux, c'est de faire un peu de Véro et d'Avina et de vous échauffer un petit peu avant de vous mettre à travailler. Donc, ça va être surtout tout ce qui est cervical, poignet, coude, épaule et un peu les jambes.
D'accord. Il y a Medokuna qui nous demande, pour les obligations qu'a l'employeur, demande même si c'est des travaux de vacataire. Est-ce que l'obligateur a, l'employeur a cette même obligation, quel que soit si on est vacataire?
Mitokuma, est-ce que tu bénéficies sur ton lieu de travail d'un aménagement de poste particulier ou c'est pas du tout le cas? Parce que c'est ça qui est important. Même si en étant vacataire, il a déjà sur son lieu de travail cet aménagement de poste, normalement, il devrait pouvoir l'avoir.
Concrètement, sur les... Enfin, typiquement, je ne sais pas pour mes Medokuna, mais moi, je suis vacataire. En fait, on a des directives en termes d'enseignement distanciel. Je n'ai pas de bureau à l'université. Donc, ils attendent que je travaille de chez moi. Donc, est-ce que si c'est le cas de mes Medokuna, ça serait... Du coup, une obligation de l'employeur ?
Alors là, malheureusement, dans ce cas-là, en fait, ça n'entre pas dans ce cadre, malheureusement, et c'est là où je trouve que c'est très mal fait. Parce que si tu avais déjà travaillé donc en présentiel, là où tu enseignes et que de là la médecine de travail te dit vous avez besoin d'aménagement de poste, il vous faut tel type de souris, tel type de clavier, etc. et que tu l'aurais eu, oui, normalement tu dois l'avoir pour ton travail en distanciel.
Ouais.
D'accord. Donc voilà, ça répond un petit peu à la question de Medokuna. H, il me semble que toi aussi tu fais du télétravail, tu travailles depuis chez toi depuis un certain moment et tu voulais aussi nous partager ton expérience sur le sujet.
Tout à fait. Alors pour parler embrayer sur l'aspect physique, moi je travaille donc depuis 3 ans en tant que monteur, je rappelle, WAF. Je travaille en tant que monteur, donc je suis devant un écran absolument toute la journée. Donc j'avais un fauteuil, moi, quasi gaming, un truc que tout le monde, comme beaucoup de gens, ont. Donc c'était assez désagréable. Et j'ai embrayé il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé une solution. Donc je voulais investir dans un bureau qui monte et qui descend, c'était formidable. Ça coûte 2000 balles, etc. Donc j'ai trouvé une solution alternative, c'est-à-dire que j'ai acheté un bureau debout, tout simplement, et un tabouret, alors un petit peu ergonomique, hein, j'ai trouvé quelque chose de musicien, un tabouret de musicien, donc il y a des repose-pieds très hauts. Donc voilà, je peux avoir une posture assez droite, j'ai l'impression, et donc j'alterne une heure. Donc voilà, je pense qu'on en parlait en off tout à l'heure avec Aurélia, et elle était assez d'accord pour dire que c'était pas mal d'alterner. Donc voilà, si vous cherchez des bureaux hauts sur Le Bon Coin, ça coûte pas très cher, plus un tabouret, vous pouvez faire une heure, assis et debout. Et donc ça, c'est bien. Ça, je le fais depuis 1 an, et je sens vraiment la différence, c'est vraiment incroyable. Et depuis 1 an et demi, moi, je fais de la méditation. Je me suis intéressé par hasard à cette chose un peu new wave dont on ne sait pas grand-chose. Et en fait, ça m'a beaucoup servi, notamment pour me sentir bien et apaiser les anxiétés que j'avais de travailler dans mon 25 mètres carrés. Donc voilà, faire la part des choses, etc. On en reparlera un petit peu, mais en tout cas, la méditation, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis après, des petits trucs, c'est effectivement ce dont on parlait tout à l'heure, Marron parlait, de s'accorder une journée pourrie, voilà, elle est pourrie, entre guillemets, faut pas culpabiliser dessus, il faut savoir s'en servir, mais on peut très bien faire le travail de 5 jours en 4, et entre guillemets, si jamais on a besoin de bosser 5 jours. D'ailleurs, j'avais une question à ce sujet. Aurélia, est-ce que tu es au courant, entre guillemets, est-ce qu'il y a des études qui prouvent qu'on travaille mieux sur une semaine de 4 jours que de 5 ou pas?
Alors, pas du tout. J'ai rien vu passer sur ça. Par contre, c'est pas très conseillé de faire une semaine complète en étant en télétravail.
Ah oui, pourquoi? D'accord. Ça
Déjà, ça nous coupe donc de nos collègues.
Bon, pour moi, c'est un avantage.
Du coup, mais dans certains cas, tu as besoin d'une prise de décision rapide, etc. Quand tu es en présentiel dans ton entreprise, tu vas voir ton collègue, tu exposes les faits, la décision peut être prise dans les 10 minutes qui suivent. En étant en distanciel, donc en télétravail, tu as besoin d'un arbitrage particulier sur une question. Tu vas devoir être obligé d'envoyer un mail à tes collègues. Et ben, du coup, c'est là où ça prend plus de temps parce que ils n'y répondent pas forcément de suite et tu te retrouves en fait bloqué et tu peux pas avancer en fait sur tes tâches.
D'accord. Effectivement, j'avais pas vu ça dans ce sens-là.
Bah, moi, je comprends pourquoi je vis ma meilleure vie parce que. Alors, je parle pas des collègues, mais on a une hiérarchie qui est là une fois tous les. Je ne travaille pas où ma hiérarchie travaille. On n'est pas sur le même lieu. Du tout. Et ils viennent une fois quand ça les chante. Et donc, nous, on vit un petit peu en autonomie. Ce qui est bizarre quand tu prends ton travail, mais là, bon, heureusement que j'aurais pris mon travail en télétravail comme ça aurait été bizarre. Mais non. Donc, et là, nous, entre collègues, on s'est créé parce qu'ils ont eu cette expérience, je dis elles parce qu'on est, on sommes que des femmes. Pendant le premier confinement, on a créé un groupe WhatsApp. Et si on veut parler, si on veut discuter avec nos téléphones pro, fournis par notre travail, bien sûr, pour pouvoir discuter. Et donc, voilà. Donc, pour moi, quand on a des chefs qui... Je me suis entendu dire, je sais pas quoi te dire, Elvire. Voilà. Hein, moi, que je sois en télétravail ou chez moi, chez moi ou sur mon lieu de travail, j'aurais la même réponse. Voilà. Mais ça dépend de tous les travails. Moi, j'ai des chefs qui nous disent quand on veut faire des heures, enfin, quand on a des heures sup à faire, oh, mais tu te sens de le faire, Elvire? Non, c'est pas si je me sens de le faire, c'est je dois le faire ou je ne dois pas le faire. C'est pas. Voilà. Mes chefs mettent la charge de la décision sur nous, en fait. Mmh. Alors que, moi, si j'ai leur salaire, je veux bien. Mais sauf que non, eux ils sont payés pour ça, pas moi. Donc oui, mais pour ceux, voilà, tu avais mis la perte de contact avec les collègues, les prises de décision qui prennent plus de temps. Il y a aussi le privé et le personnel qui se confondent. Alors ça, ouais. Ça arrive moins comme moi, parce que moi je suis affiliée à une mission de service public. J'ai des horaires, je travaille de 8h30 à 17h30. Et moi, ayant eu un burn-out, ayant fait des horaires de travail pas possibles, ayant eu une chef avant qui me disait « Mais Elvire, on peut tout te demander, tu dis jamais non. » Et j'ai appris que c'était pas un compliment. En fait, maintenant, je suis très régulière sur mes horaires de travail. Je ne fais que des exceptions si c'est dans l'intérêt de mes suivis et des gens que je suis. Mais pas pour ma hiérarchie.
Moi aussi, je me suis. J'ai pas de collègues, moi, je m'impose un rythme. Mais depuis assez récemment, en prenant conscience de ça, je me suis interdit de travailler la nuit, ou alors je fais payer très cher. Et pareil pour le week-end. Ou alors je fais payer très cher. Et quand je dis très cher, c'est le double et je suis pas donné à la journée. Donc, c'est vraiment fixer des trucs, effectivement, comme ça. Et aussi, moi, je suis aussi cadreur, donc pour les événements, ça compte pas. Parce que c'est forcément le soir ou les week-ends, mais quand c'est du travail bureautique, du montage, je m'interdis de travailler plus de 18h30 ou 19h, et plus les week-ends aussi, j'ai arrêté. C'est hyper important de se fixer des limites comme ça, je pense.
Et si on peut, moi, pour les astuces et conseils, donc voilà, elle l'a un peu dit, Maroua, c'est être indulgent et bienveillant avec soi-même. Il y a des journées bof, il y a des journées où on ne peut pas. Alors moi, voilà, si, imaginons, j'ai pris des rendez-vous et je sens que je ne vais pas pouvoir assurer, j'appelle, je dis, je suis désolée, mais est-ce qu'on peut reporter le rendez-vous parce que je ne peux pas, je ne sais pas vous, c'est moi, là, je ne suis pas dans la possibilité... De faire ça. Il faut être bienveillant et indulgent avec soi-même. Et puis, voilà, arriver à se changer la tête ou à faire des pauses. Parce que moi, en fait, ce qui me perturbe dans le monde du travail aussi, c'est que c'est très accepté de faire des pauses clopes qui peuvent durer plus que 5 minutes, on va dire. Alors que moi, j'aurais besoin d'une pause switch, d'une pause lecture, mais tout en restant à mon poste de travail, donc tout en pouvant répondre au téléphone si je dois répondre, plutôt que mes collègues qui vont dehors pour fumer. Mais moi, j'aurais besoin d'une pause manga, d'une pause Switch, d'une pause... Mais ça, c'est très mal vu. Je peux pas sortir ma console et me faire une petite pause. Alors qu'on peut faire une pause de 20 minutes pour fumer. Voilà, c'est... Alors que là, je peux faire ça. Je peux, j'écoute un bout de podcast. Je fais 10 minutes d'Animal Crossing. Voilà. Et je suis plus productive au final.
Pour le petit... pour un moment, ça me rappelle un truc assez rigolo. C'était à l'époque où j'étais en stage. Alors, dans une boîte, évidemment, j'étais payée 400 balles pour plus de 40 heures par semaine. Et ma boss trouvait ça très curieux qu'en tant que stagiaire, sur les trucs un peu de traitement de texte ou des trucs d'Excel un peu basiques, je me mette en fait de la musique dans les oreilles ou un podcast. Elle savait même pas ce que j'écoutais, c'est juste que ça l'a gênée. Et du coup, genre, à chaque fois, elle venait me tapoter sur l'épaule pour me dire non, c'est pas comme ça qu'on fait ici, il faut qu'il y ait un peu d'interaction entre nous. Je me disais, mais je sais pas, t'es à ton bureau, je disais ok, mais ça me permettait de mieux travailler sur des Excel par exemple. Et visiblement, elle comprenait pas ça. Mais c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux pauses ou par rapport aux façons aussi de coop avec le boulot. Je conçois qu'il y a des gens qui peuvent pas écouter un podcast ou de la musique et en même temps faire un Excel, mais moi c'est comme ça que je fonctionne.
Mais exactement, moi je n'osais pas, et puis après j'ai vu une collègue, alors moi je partage mon bureau avec une collègue, et toutes mes autres collègues ont des bureaux seuls, et j'ai vu une collègue qui était en train de taper un rapport et qui avait ses écouteurs, et donc j'ai dit bon elle le fait, je le fais, et moi aussi, et je dis bon c'est pas contre toi ma collègue, parce que là moi j'aime bien que quand j'écris écouter de la musique, et donc je le fais, et j'ai mon téléphone en face de moi qui affiche un signal lumineux, je sais quand on m'appelle, et puis je mets pas à fond non plus. Et je me suis permis de le faire. Et je veux répondre aussi à une question de Tampinambour. La possibilité de se fixer des limites et ou refuser quelque chose à l'employeur ne dépend pas-il des qualifications et de la classe sociale ? Bien sûr, bien sûr. C'est totalement lié. Voilà, moi, je me permets de le faire parce que je suis passée à un niveau où le travail m'a tellement brisée et roulé dessus que c'est ma santé mentale avant tout. Mais je peux. Après, il faut avoir les gonades, les ovaires, tout ce que vous voulez, les couilles, tout ce que vous voulez. Et puis, moi j'ai des droits à Pôle emploi encore. Je sais que. Mais maintenant, je me mets en position où. Je ne vais pas forcément contre l'employeur, mais quand on me dit, quand on me dit par exemple, Elvire, je ne sais pas quoi dire, je dis, c'est pas moi la chef. Je les renvoie à leurs responsabilités. C'est ce qui est déjà une forme de mise en danger. Donc, et si ça, ce n'est pas possible, et dans la plupart des cas, ce n'est pas possible, que vous ne voulez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire, c'est avec soi qu'il faut être indulgent aussi. Soyez indulgent, parce que quand vous dites « Ah ouais, mais j'aurais dû dire ça, voilà. Moi, j'ai toutes ces idées, ces valeurs, et puis là, je ne les mets pas en pratique. Oui, mais bon, il y a la sécurité de l'emploi et la sécurité... Il faut manger à la fin du mois. » C'est pas vos valeurs et c'est pas le militantisme qui va payer. Donc soyez indulgents avec vous-même, même si vous pouvez pas mettre en pratique tout ce que vous pensez au fond, en fait. Donc voilà, moi, pour mes astuces, moi, c'est beaucoup de podcasts, les radios pirates, comme ça, les activités, les pauses, et vraiment pouvoir travailler à son rythme. Mais moi, à 17h30, c'est fini. Hein. Pouf, j'éteins mon téléphone, je vois pas ma boîte mail. On écoute, il n'existe plus. Mais voilà. Ça, c'est aussi parce que j'ai des horaires fixes à la base, que je peux me le permettre.
Oui. Ça, c'est bien. Moi, je rebondis. Éventuellement, je me sers de ça comme d'une passerelle pour embrayer sur la méditation guidée. Mm-hmm. Parce que, sur la méditation, la bienveillance et l'indulgence envers soi-même, c'est un des piliers, en fait, de la méditation. Si jamais on a fini avec cette partie, je propose que, comme on est un petit peu en retard, on enchaîne avec la partie sur la méditation.
Oui.
Alors, pas la méditation guidée, j'ai quelques mots à dire sur la méditation parce que.
Mm-hmm.
Voilà. Mais si jamais ça vous va,
je
vais rajouter. Mm-hmm. Formidable. Alors, la méditation, qu'est-ce que c'est ? J'ai mon petit PowerPoint. la méditation, il y en a beaucoup de sortes qui existent. Il y a notamment la méditation de pleine conscience, qui consiste à s'ancrer dans le moment présent en prenant conscience de son corps, de son émotion ou d'un son, le tout sans jugement, ça c'est vraiment très important. Parce que c'est justement se débarrasser du jugement qui va essayer, qui va nous apaiser. Si on est triste, on peut prendre conscience de sa tristesse sans se flageller, arriver à l'intégrer, la sortie, pour sortir du cercle vicieux et la constater, plutôt que de s'en vouloir d'être triste. Il y a plusieurs types de méditation, comme je disais. Et moi, celle dont je voulais vous parler ce soir, c'est la méditation de pleine conscience. Alors, le consensus scientifique sur l'utilité de la méditation, c'est que ça marche, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il y a quelques pistes. La méditation. Méditation, donc fermez les yeux et pensez à autre chose. en très gros. Comme le cerveau est l'organe qu'on ne connaît pas du tout, le moins probablement du corps humain. On ne sait pas trop pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ça a été testé dans plein de cliniques. Donc, le plus connu, il est français, c'est Christophe André, un médecin psychiatre, qui a décidé de s'en servir dans le cadre de thérapie, et ça a fonctionné. Et depuis, ça pullule partout dans le monde, et ça fonctionne très bien. Donc ça fonctionne pour la gestion des douleurs chroniques, on en parlait, c'est formidable. Ça fonctionne pour éviter les rechutes en dépression, incroyable. Et ça évite et ça permet de gérer les émotions, ce qui justifie du coup après son intégration dans des programmes pour soigner différentes pathologies comme les troubles de la personnalité, les troubles du comportement alimentaire et d'autres. Alors je tiens à mettre un petit disclaimer, il y a une méta-analyse qu'on m'a suggéré l'autre jour sur Radio Pirate qui effectivement découvre qu'il y a à peu près 10 patients des études sur la méditation où ça déclenche ou aggrave des symptômes de dépression. Donc attention, on va faire une très courte méditation guidée, donc je pense qu'il n'y a pas de souci, mais si jamais vous avez le moindre doute, n'écoutez plus Radio Pirate quand on va le faire. Mais voilà, en tout cas, normalement, ça fonctionne de façon pour les 90 autres restants. Voilà, je n'ai pas le lien de l'étude tout de suite, mais il est assez facile à trouver, il suffit de taper méta-analyse méditation. La méditation m'a aidé pendant les burn-out, ça ne m'étonne pas, c'est assez formidable. Alors du coup, les pistes pour comprendre pourquoi ça marche, c'est que déjà ça évite les ruminations, c'est-à-dire repenser à ce qu'on a fait, etc. Donc ça, comme ça évite ça, ça évite de générer des boucles d'anxiété. Également, la bienveillance qu'on apporte sur soi-même pourrait être liée aux améliorations significatives de l'anxiété. Et enfin, il y a de la neuroscience qui rentre en jeu, puisqu'il semblerait que le cortex singulaire antérieur, j'ai fait mes recherches, serait à l'origine, le cortex singulaire antérieur intervient dans la régulation de nos émotions. Et du coup, la méditation aurait un effet sur le cortex. Donc voilà. Donc moi je vous mets dans le chat un lien vers une vidéo qui moi m'avait beaucoup plu. C'est une vidéo de PsychoQuack, une chaîne YouTube qui vulgarise beaucoup de choses sur la psychiatrie et la psychologie. C'est extrêmement intéressant. Alors ça c'est la vidéo en tant que telle, la vidéo qui moi m'a fait me mettre à la méditation. Parce qu'avant je pensais que c'était un peu de bullshit new wave, et en fait pas du tout. C'est extrêmement scientifique et c'est prouvé. Donc voilà, si jamais controversé comme source, PsychoQuack, ah bon ? J'ai lu les méta-analyses et ça a l'air béton. Ça va passer il y a 4 ans, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, sans plus tarder, si vous le voulez, moi je vous propose une petite méditation guidée de 5 minutes. Donc c'est très court, normalement c'est un peu plus de 10 minutes. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez participer en vous asseyant. Oui, pardon.
Oh oui, j'ai participé, je t'ai aidé à dire le mot.
Merci. Vous pouvez vous asseoir confortablement avec le dos droit, pas appuyé sur votre siège. Après, vous pouvez faire évidemment comme vous voulez. En vrai, c'est tellement bizarre et tellement compliqué que... placez-vous de la façon comme vous voulez, mais moi je le fais en croisant mes jambes par exemple, pas forcément en lotus, mais juste en croisant les jambes et en ayant le dos droit. Et voilà, et ensuite on va pouvoir lancer la musique, fermer les yeux, et on est parti pour 5 minutes. N'hésite pas à la mettre très peu fort, Elvire. après avoir adopté une position confortable et fermé les yeux, je vais prendre conscience de mon souffle. Conscience des mouvements de ma respiration. Inspiration. Expiration. Je laisse mon souffle aller et venir. Je me contente de l'observer et de l'accompagner. De lui laisser toute la place. Tout l'espace. J'observe l'effet de ma respiration sur mon ventre et mes poumons. J'observe le mouvement de l'air qui rentre dans mon corps puis qui sort de mon corps. Je ressens le passage de cet air dans mon nez, ma gorge, le début de mes bronches. J'observe la différence de température entre l'air que j'inspire et l'air que j'expire. J'imagine que l'air que j'inspire parcourt tout mon corps, mon torse, mes jambes. Et au moment où j'expire, je peux imaginer que mon air sort de tout mon corps, de mes bras, de mon torse. Je ressens tout mon cœur qui respire. Je laisse mon souffle exister comme il le veut. Si mes pensées m'emportent hors de l'exercice, je ne m'en veux pas. C'est un phénomène normal. Bienvenue au club. Lorsque je m'en aperçois, je souris et je reviens à mon souffle. Je repars dans mes pensées. Je reviens à ma respiration. 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Au travers de tous ces allers-retours entre mon souffle et mes pensées, je suis exactement au cœur de la pratique de la pleine conscience. Continue d'amener doucement ma conscience sur chaque respiration, l'une après l'autre. La plus importante, c'est celle qui a lieu maintenant. Je lâche le passé et la respiration d'avant. Le futur et la respiration d'après. Je suis juste dans le présent, dans celle-ci. Et celle-ci. À la fin de la méditation, j'essaierai de repenser me lavant les dents, en me couchant, en faisant la vaisselle, demain, tous les jours, y repenser. C'était une courte méditation guidée, extrêmement inspirée, bien que raccourcie, d'une méditation guidée de Christophe André. Si vous le souhaitez, elles sont beaucoup sur YouTube, vous pouvez les mettre, les écouter. Ça dure entre 8 et 15 minutes, et c'est formidable.
Merci beaucoup à toi. J'ai pas pu trop participer parce que je gère aussi la technique en même temps, mais comme je fais le podcast, je vais pouvoir le faire à ce moment-là. Mais ça détend, ça détend, même si j'ai pas pu participer à fond. Je vais appliquer le conseil, le non-conseil avec un H, de lire le livre Méditer puis agir. Je pense que ça va. Je suis très réceptive à ce genre de choses.
Ne l'écoutez pas. Et alors, du coup, je voulais juste rajouter effectivement que la fin est assez importante. C'est bien de le faire pendant 8 ou 12 minutes par jour. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de prendre conscience des instants assez régulièrement dans la journée, à intervalles réguliers. Moi, il y en a un qui me facilite, c'est la vaisselle. Faire de la pleine conscience pendant que tu fais la vaisselle, c'est un truc de ouf. Tu vois tu sens toute l'eau qui touche toutes les pores de ta peau, tu respires les bulles de savon, tu vois précisément toutes les bulles qui se forment, etc. C'est un délire. C'est trop bien. Donc moi je vous conseille de le faire un peu tout le temps, pour prendre des petits moments pour penser et dire tiens, là je vais essayer d'être pile dans l'instant présent. Alors, il y a le souffle, évidemment, mais il y a aussi ce que vous faites, ce que vous voyez. Ça marche très bien avec la vue aussi, la pleine conscience, etc. Voilà.
Bon, moi j'ai un lave-vaisselle, mais je trouverai un autre médium que la vaisselle. Mais
c'est à faire personnellement juste après. Donc,
Tu veux faire la vaisselle?
Oui, je dois faire la vaisselle juste après, donc c'est parfait.
Bah, essaye de sentir l'eau qui ruisselle sur tes doigts, des choses comme ça. Voilà. Donc effectivement, le livre est intéressant. Et voilà, alors, moi ça m'a beaucoup aidé. Peut-être que j'ai eu quelques anxiétés, mais jamais de troubles, etc. Mais depuis, ça m'a rendu, ça a vraiment déclenché quelque chose en moi de la méditation que je trouvais insoupçonnée et une façon de voir le monde que depuis je plébiscite à tort et à travers. C'est pour ça que j'ai été ravi d'en parler ce soir et de faire ma première méditation guidée avec vous ce soir. Alors, je l'ai plagié sur Christophe André, donc ça va.
Je te remercie beaucoup parce que ça a plu à beaucoup de personnes, personnes dans le chat, à moi, à Marwa et à Aurélia, j'en suis sûre.
Moi qui suis aussi une grande adepte de la sophrologie, ça m'a fait beaucoup de bien.
Ouais, donc on te remercie beaucoup, beaucoup H. Et je remercie aussi Aurélia, on va se quitter. Merci beaucoup pour d'avoir partagé votre intimité et vos sentiments et tout cela avec nous sur le télétravail et sur votre santé mentale. Merci pour tous tes conseils, Aurélia, et merci beaucoup H pour cette méditation.
Merci à toi d'avoir tout planifié et merci également à nos invités pour leur témoignage et conseils.
Merci à Tata et merci à Adré Raéline pour leur travail sur la modération. Merci Aurélia.
Merci à vous de m'avoir invité.
Merci Marwa.
Merci pour l'invitation, c'était génial.
Mais de rien. Et donc on va finir sur n'oubliez pas que le travail c'est qu'une partie de votre vie. C'est une partie beaucoup trop prenante pour les gens et pour les gens qui souffrent psychologiquement. Le télétravail, ce n'est pas pour des fainéants qui rêvent que de ne pas être sous supervision. Ne laissez personne vous dire que vous êtes fainéant ou que vous n'êtes pas fait pour le travail. Le problème, ce n'est pas vous, c'est le capitalisme. Et n'oubliez pas, c'est pas le lundi que tu détestes, c'est le capitalisme.